C'est le moment de notre rendez-vous hebdomadaire avec notre ami Daniel Brière qu'on retrouve à l'instant. Salut Daniel.
Salut Mario.
Daniel, je veux te parler de coaching cette semaine, de coach. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que plus que jamais, là, en 2018, puis ça n'a pas commencé cette année, là, les coachs, puis particulièrement les gars d'expérience là, qui n'ont pas grandi avec les jeunes qui arrivent dans la ligue, ceux qu'on appelle les milléniaux, là, que les gars doivent faire des pirouettes pour s'ajuster à la réalité d'aujourd'hui, là, de l'approche un à un avec chaque joueur. T'as vu Tortorella hier là, qui sautait un plomb, les gars se parlent aux mises en jeu, lui il capote, il dit « les gars, ça n'aise plus ». Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ben, il y a aucun doute que les entraîneurs doivent s'adapter. Puis de moins en moins, est-ce qu'on voit des entraîneurs qui marchent par la peur aujourd'hui dans la Ligue nationale? C'est, comme tu as mentionné, c'est les milléniaux. Tu dois les traiter différemment. Ils veulent des explications. Tu sais, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on disait à un joueur, regarde, je suis pas content de ton rendement. Va regarder la game dans les estrades. Puis arrange-toi pour que tu reviennes avec de la bonne intensité. On lui expliquait pas pourquoi on le laissait derrière. Aujourd'hui, tu dois expliquer les raisons, donner les raisons aux joueurs, pourquoi tu dois les garder sur ton bord pour qu'ils continuent à jouer pour toi. Puis il n'y a pas de doute avec les salaires qui sont payés aux joueurs de la Ligue nationale, c'est eux autres qui ont le gros bout du bâton. Donc, un entraîneur doit connaître son hockey, mais doit aussi être très, très bon vendeur pour que ses joueurs continuent à travailler fort puis continuent à leur donner des rendements pour l'aider à garder sa job, dans le fond.
On a vu l'an passé d'insérer, tu te rappelles, quand Barry Trotz a fait des tours de patinoire là en patinant le plus vite possible, il a même failli trébucher pour embarquer un petit peu, j'imagine, avec ses joueurs puis les inspirer puis leur montrer qu'ils pouvaient jouer le jeu. On a vu récemment, puis je sais que tu as tellement de respect pour Pete Laviolette, l'entraîneur des Prédateurs de Nashville. T'as-tu vu ça quand il a mis un masque dans un point de presse, une espèce de masque d'Halloween, après un match parce qu'il disait qu'il respectait une gageure avec ses joueurs? Qu'est-ce que tu en as pensé?
Exact. Mais pour moi, ce que j'ai trouvé, tu sais, Peter Laviolette, c'est un entraîneur qui est très, très proche de ses joueurs. J'ai plusieurs expériences comme ça avec lui où il essayait toujours de trouver des façons de motiver ses joueurs. Il y avait toutes sortes de façons différentes à chaque semaine. Puis ça, encore une fois, c'est tellement Peter Laviolette. Il a fait une gageure avec ses joueurs, puis il respecte sa gageure. Mais tu sais, pour les entraîneurs, pour les joueurs, c'est le fun de voir ça, que ton entraîneur fait partie de l'équipe. Il est engagé avec ses joueurs. Donc, du côté des joueurs, là, on adore ça, de voir un entraîneur comme ça.
As-tu été surpris quand même de voir Laviolette aller jusqu'à porter un masque dans un point de presse? Parce que là, en même temps, il s'expose à être l'objet de la risée un petit peu de bien des observateurs partout en Amérique, chez tous les observateurs du hockey, là.
Mais ce qui est le plus important là-dedans, c'est le respect de ses joueurs. Il y avait une gageure avec ses joueurs. Il a respecté sa gageure, il a fait ce qu'il avait à faire. Donc ses joueurs vont le respecter pour ça. Puis je pense que c'est beaucoup plus important que le monde entier à l'extérieur, ce qu'ils vont penser de lui. Pour Peter Laviolette, c'était plus important ce que ses joueurs pensaient de lui, quelle sorte d'homme était là à garder sa parole. Si on parle aussi, on parlait de t'as amené John Tortorella. Je l'ai eu plus tôt dans ma carrière. Puis quand t'es entraîneur-chef, John Tortorella, c'était un entraîneur très, très dur. Il avait pas peur de planter ses joueurs, comme on dit, devant le public, dans les médias. Il a changé beaucoup. Il a appris que s'il voulait rester entraîneur-chef dans la Ligue nationale, il devait changer son approche envers ses joueurs. Puis ce qu'il a fait, c'est ce qu'on voit là depuis les deux, trois dernières années, où il protège ses joueurs beaucoup plus dans les médias. De ce que j'entends dire, des joueurs qui jouent pour lui, maintenant, on l'adore parce que il comprend beaucoup plus. Il est moins en attaque avec ses joueurs. Il essaie de les comprendre beaucoup mieux que par le passé. Ça, c'est pas facile là, pour un entraîneur de changer comme ça en milieu de carrière.
Toi, est-ce que ça vient de chercher de voir que la nouvelle génération, puis c'était peut-être vrai il y a 10 ans, Daniel, ou il y a 15 ans, quand Tortorella dit « les gars, se parlent sur la glace, c'est presque ça se boucle pas le lunch pendant la game », il dit « t'sais, OK, on va aller prendre une bière après la game, là, mais pendant que ça joue, là, on peut-tu se taper dessus? » Est-ce que c'est un commentaire qui est dépassé ou tu le rejoins un peu?
Ben, je pense que les personnes plus âgées peuvent comprendre. Moi-même, par bout, je pense un peu comme lui sur certains aspects du match. Mais écoute, c'est la réalité d'aujourd'hui. Les joueurs sont beaucoup plus proches. Il y a beaucoup moins d'émotions. Il y a moins de bagarres également. Donc, il faut comprendre ce côté-là. Mais ce que j'ai aimé, ce qui m'a fait rire beaucoup dans les commentaires de Tortorella, c'est qu'il a envoyé un message. Il a envoyé un message à ses joueurs, mais il a pas nommé personne publiquement. Puis je suis sûr que ça le mangeait à l'intérieur de pas être capable de dire et de quel joueur il essayait de venger. Mais pour moi, c'est ce côté-là qui me faisait rire. dans ses commentaires.
Par rapport également au choix des entraîneurs, bon, il y a une hiérarchie dans une équipe. C'est peut-être plus facile d'asseoir dans les gradins un Charles Hudon parce qu'il a pris ou il a écopé de quelques pénalités douteuses. Est-ce qu'un entraîneur comme Claude Julien ou ailleurs dans la Ligue peut faire la même chose avec un Andrew Shaw, par exemple, Daniel? Est-ce que d'envoyer, exemple, Andrew Shaw dans les gradins pour des raisons semblables, sans le condamner publiquement, ça se fait ou le coach va en payer le prix si le gars a bien de l'influence dans le vestiaire?
Bien, ça se fait, mais c'est la façon dont tu vas le faire qui est très, très importante. Tu dois peut-être donner une chance ou deux à un Andrew Shaw, par exemple, si c'est le cas. Un joueur qui a une voix dans le vestiaire, qui est respecté dans le vestiaire, tu dois approcher ça différemment que d'un jeune. Comme dans le cas de Shaw, peut-être que tu lui donnes quelques chances, tu t'assois avec lui puis tu lui expliques, écoute, si ça arrive encore, j'aurai pas le choix parce que je dois être fair avec tout le monde. Donc le joueur va comprendre ça. Mais si tu arrives d'une journée à l'autre puis tu décides de le mettre dans les estrades puis tu lui dis rien, là ça peut être dangereux, puis tu peux perdre ton vestiaire très très rapidement. Donc il y a une façon de le faire. C'est ça. Les entraîneurs assez intelligents vont être capables de faire ça. Mais de respecter la ligne, respecter tes joueurs, mais être fair envers tout le monde.
Puis d'autre part, OK, c'est correct de ménager ton vétéran parce que tu veux garder le contrôle sur ta chambre. Mais si le vétéran prend des mauvaises pénalités pendant une couple de parties puis tu fais rien, est-ce que le reste de ton groupe, même si c'est des recrues, te regarde, c'est beau coach, Andrew, c'est un saint, on y touche pas. Puis non, je veux dire, sans le dire,
ouais,
mais entre
eux
autres.
Oui, t'as raison. Oui, t'as raison, ça aussi. Puis c'est là que c'est important pour l'entraîneur de tout de suite. Tu dois t'ajuster, tu dois discuter avec Andrew Shaw puis lui faire expliquer, garde, je te donne une chance à cause de ton statut. C'est par respect pour ce que tu as fait dans le passé dans la Ligue nationale. Mais par contre, si ça continue, je dois te traiter de la même façon que les autres joueurs. Donc, tu travailles un peu des deux côtés. Tu laisses savoir aux jeunes que c'est pas acceptable. Mais d'un autre côté, tu laisses savoir aux vétérans, garde, je suis sur ton côté, j'ai besoin de toi. Mais tu dois quand même embarquer dans la ligne la prochaine fois, je vais être obligé de te laisser de côté. C'est pas toujours facile, mais c'est ce que les meilleurs entraîneurs, puis les entraîneurs qui sont capables de rester dans la Ligue nationale longtemps, puis d'avoir une longue carrière, c'est un peu là leur force. Plus que je te dirais même que de connaître là, les systèmes de jeu avant tout, là, c'est d'être capable de manager toutes ces personnalités-là.
T'attends-tu à ce que Shaw soit en uniforme demain? Deux mauvaises pénalités hier, même si Claude Julien ne l'a pas peinturé dans le coin?
Ben, écoute, je ne sais pas s'il est déjà rendu là avec Shaw, par contre. C'est possible, mais je ne suis pas sûr qu'on soit déjà rendu à ce point-là avec lui.
Une dernière question, et ça concerne un peu par la bande Shaw, mais je te pose de façon plus générale, question philosophique un peu. L'identité d'un quatrième trio, dans une ligue où il y a de moins en moins de violence, où il y a de moins en moins de bagarreurs, quel genre de quatrième trio tu privilégierais comme DG ou entraîneur, Daniel, en autant que tu aies des outils pour les deux? Un trio de style papier sablé ou un trio de gars qui sont capables d'ajouter à ta production offensive? Tu vas me dire idéalement les deux, ouais. Là, mais tu comprends le sens de ma question. je t'ai volé le punch.
Je voulais avoir les deux. Mais écoute, c'est pas facile à trouver. Je pense que c'est plus comme il y a 15 ans où on avait deux bagarreurs sur la quatrième ligne. Même aujourd'hui, il y a plusieurs équipes qui en ont pas de bagarreurs. Même si c'est pas un bagarreur, moi j'aime avoir des joueurs qui sont quand même capables d'amener un aspect physique. Mais je te dirais que de plus en plus, le côté vitesse est plus important. Donc, je privilégierais peut-être deux marchands de vitesse et un joueur là, peut-être un peu plus physique. Tu as besoin aussi d'un joueur qui est capable de prendre de grosses mises en jeu. Donc, sur mon quatrième trio, j'aimerais ça avoir des joueurs souvent qui sont capables de tuer des punitions. Comme ça, j'ai pas besoin de surutiliser des joueurs dans mon top 6 que j'aimerais plus utiliser sur l'avantage numérique, plus utiliser à 5 contre 5. Donc, idéalement, pour moi, là, ce serait ma quatrième ligne, trois joueurs qui sont capables de tuer des pénalités avant tout.
En terminant, dommage pour Niemi qui a été très solide hier, mais qui, avec la pénalité dans la dernière minute de jeu, perd la possibilité d'aller chercher un point ou même peut-être deux pour son équipe. Mais quand même, le Canadien, 12 points en 9 matchs au classement. Tes Flyers, seulement 8 en 10, mon Daniel.
Ouais, puis c'est complètement le contraire. On s'attendait à ce que le Canadien ait de la difficulté en début de saison, puis que les Flyers sortent en force. C'est complètement le contraire. Si on avait dit là, que le Canadien serait dans cette position-là en début de saison, tout le monde nous aurait pas cru, premièrement, probablement, mais aurait été extatique par ce début de saison-là. Donc, on lève notre chapeau au Canadien de Montréal, à part cette performance-là d'hier où ça a été une soirée difficile pour le Canadien. Mais à part ça, là, très impressionnant pour la part du Canadien de Montréal depuis le début de la saison.
Daniel, un gros merci. Bonne fin de semaine et on se reparle la semaine prochaine sans faute.
Super. Merci beaucoup, Mario. À bientôt.
Merci, à bientôt, Daniel. Daniel Brière qui était avec nous. On revient dans quelques instants et on aura l'heure juste de la part de Bruno Eppel et Mathieu Proulx. Coudon, le problème est où chez les Alouettes? Il y en a plusieurs problèmes, vous me dites, mais savez-vous quoi? Le joueur ou la personne la moins populaire chez les Alouettes n'est pas Johnny Manziel, selon mes informations. C'est le coach. C'est Mike Sherman. Plus de détails dans un instant.